Ce matin, on va faire plusieurs lectures bibliques. Je vais en afficher quelques-unes au fur et à mesure, notamment la première, s'il te plaît. Où il est écrit en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20. 1. Ne méprisez pas les prophéties. 2. Mais examinez toutes choses. 3. Retenez ce qui est bon. Et puis abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors que bon, s'il y a des aspects à trier, faites le tri. Ça, c'est dans une épître. Et la caractéristique des épîtres, c'est que Paul et d'autres allaient de lieu en lieu, annonçaient le message de l'évangile, établissaient les repères bibliques et puis ils partaient. Et puis comme Jésus a déjà prévenu que là où on jetterait le bon grain, il y aurait forcément dans la nuit le diable qui viendrait jeter l'ivraie, il existe depuis toujours dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, cette séduction, cette réalité qu'il y aura toujours des enseignements un peu bizarres qui sont venus pour corrompre la parole de Dieu. Alors, c'est comme ça qu'on a les épîtres, d'ailleurs. Les épîtres, ce sont des lettres que les apôtres envoyaient aux églises parce que, entendant deux, trois nouvelles, ils disaient « Hop là !» Gardez-vous, faites attention. Et c'était l'occasion de réaffirmer les points de doctrine afin que l'Église ne soit pas emportée à tout vent de messages. Mais il y a quand même là une simplicité, une sagesse qu'il faut que l'on conserve. Un, de ne pas mépriser les prophéties. Qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Ce sont les paroles qui sont inspirées par Dieu. Et Paul dit, il ne faut pas les mépriser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déclarer bon ou mauvais systématiquement ce que quelqu'un se dit venir de Dieu, mais il dit, il faut juste les examiner. Ok, toi tu dis que tu parles au nom de Dieu, ok? On ne va pas te rejeter, mais on va prendre le temps d'examiner quand même ce que tu dis. Et puis dans ce que tu dis, on va faire le tri entre ce qui est bon et ce qui peut être mis de côté, parce que l'origine de la prophétie ne pose pas de problème. Mais de temps en temps, le canal que Dieu utilise, de temps en temps, il peut avoir des petites impuretés dedans, quoi. Et le message, il se trouve pollué avec les petites, avec les faiblesses humaines que nous sommes. Ce matin, je vais effectivement devoir aborder un sujet qui actuellement jette un trouble. Je pense dans le milieu évangélique de manière générale et au milieu de nous. Et je voudrais juste, par mon devoir de pasteur, prendre le temps ce matin d'apporter une petite mise en garde en voulant rappeler quelques repères bibliques. Je vais vous raconter la genèse de l'histoire. Enfin, de mon point de vue, de ce que j'ai pu vivre. Il y a quelques temps, il y a plusieurs semaines de ça, je crois que ça fait plus d'un mois, les instances du mouvement des assemblées de Dieu avaient diffusé un message au pasteur mettant en garde contre une mode un message enfin je sais pas comment dire ça une enfin je sais pas comment on appelle ça, ça porte un nom mais j'ai pas envie de le citer parce que ceux qui sont pas au courant ça évite que vous soyez attirés. Mais de toute façon, vous serez bien sans moi. On va dire une mode d'évangélisation, voilà, qui se diffusait qui se diffuse par Internet. Et donc, le maire disait, faites attention, parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses et la théologie est vraiment instable. Je lis ça, je fais quoi avec ça? Déjà, je ne peux pas porter un jugement sans moi-même avoir vérifié. Est-ce que j'en parle à l'église? Parce que quand même, c'est très rare que les instances nous mettent en garde contre des dérives comme ça. C'est très rare. Enfin, moi, c'est la première fois d'ailleurs que j'en reçois une. Donc je dis, il y a quand même quelque chose. S'ils mettent en garde, c'est qu'il y a déjà eu des dérapages. Alors je dis, est-ce que j'en parle à l'église? Mais je dis, non, ça sert à rien. Ça sert à rien de susciter la crainte, la méfiance, la suspicion. On grandit et puis on verra. Et puis, dans la semaine même, j'apprends qu'à Nantes, il y a des gens instables qui sont emportés par cette nouvelle mode évangélique, ou d'évangélisation plutôt. Ah, je dis, quel hasard! C'est bizarre! C'est tellement bizarre que j'apprends que ici, ah oui. Alors ce n'est aussi, il y a certains qui sont un peu. Et c'est ainsi que deux personnes qui étaient connues au milieu de nous sont carrément pris dans cette vague et ont décidé effectivement de se tenir à l'écart de l'Église et de mettre en pratique les conseils de ce site. En tant que pasteur, on est conscient que malheureusement, nous ne sommes pas les seuls pasteurs et que sur Internet, il y a une multitude de pasteurs et on ne va pas vous interdire. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir du bon sens. Mais je voudrais quand même vous rappeler que si Dieu a installé des ministères sur les assemblées, ce n'est pas pour dominer sur le troupeau, mais c'est pour prendre soin du troupeau. Si vous avez des soucis, des doutes, des interrogations, n'hésitez pas à en parler. Je sais que je ne réponds pas toujours au téléphone, mais quand vous laissez un message, je rappelle. Amen. Et s'il y a des doutes, des choses qui s'immiscent, ayez au moins cette procédure. Ok, on ne méprise pas les prophéties. Ok, mais il faut les examiner. Et puis il ne faut pas tout prendre. Il y a des choses bonnes et il y a des choses moins bonnes. Et le but, c'est pas de tout rejeter en bloc, mais de dire que tout ce qui vient d'autre part, c'est mauvais, et il n'y a que nous qui avons la vérité. C'est faux, on le prêche régulièrement ici. Mais il faut que nous soyons affermis. Ce n'est pas une nouveauté. Il y a quelques-uns qui ont l'impression de découvrir l'eau tiède. Mais oui, Jésus guérit. Amen.
Oui, amen.
Jésus bâtit du Saint-Esprit. Amen. Jésus revient. Amen. Enfin. Alors je voudrais juste ce matin, non pas stigmatiser des personnes, c'est absolument pas le but. Et d'ailleurs, je vous félicite dans l'ensemble. Parce qu'effectivement, là, les personnes qui ont pu être happées par ce courant, bon, étaient connues de la plupart d'entre nous. Et je vous félicite parce que vous avez eu depuis plusieurs mois, je dirais, une réaction mature. Vous avez su écouter ses frères, vous avez su les encourager quand ils vous aviez l'opportunité. Certains ont le courage même de leur dire non, ce que tu fais, c'est pas bon, ta manière de faire n'est pas juste. Et je vous félicite parce que vous n'avez pas usé de brutalité, vous n'avez pas cherché à rejeter, vous avez juste essayé d'encourager, d'être à l'écoute. Vous avez eu cette oreille à la fois attentive et ce désir d'aider les personnes. Et pour cela, je vous félicite, pour la plupart d'entre vous, d'avoir eu cette maturité, à la fois de patience et d'affection. Je dis de patience parce que de temps en temps, il faut prendre sur soi. Mais ça fait, c'est ça, être adulte, c'est prendre sur soi et pas cracher ou se rebeller. Et puis, vous avez eu cette maturité quand l'occasion était possible d'essayer de redresser, d'encourager dans l'amour. Et vraiment, je vous félicite. La base de notre méditation, on va la faire dans Luc, chapitre 10. On va lire ce long passage, parce qu'on va tirer de ce passage-là quelques enseignements sur notre sujet. J'espère tout voir aujourd'hui, parce que j'aimerais que l'on puisse, dans les semaines suivante, passer à autre chose qu'à faire le tri entre l'ivraie et le bon grain. Mais il y a des moments où il faut tamiser. Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez ! Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, mais dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazi, malheur à toi, Bethsaïda, car si des miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu as été baissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Et 70 revint avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom !» Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu l'as révélé aux enfants. » Amen. Je ne vais pas avoir évidemment le temps de tout développer ce matin. Je voudrais juste donner quelques points d'interpellation plutôt axés sur cette mouvance qui se fait par Internet et par ce site. Une première question, quelle place doit avoir la guérison et le surnaturel dans notre vie? Quelle place doit avoir la guérison dans le message de l'Évangile? Pourquoi cette question? Première, parce que un des points forts de ce courant, c'est de mettre en évidence et au premier plan la guérison. Le principe est simple, il faut sortir, chercher les malades et prier pour eux pour qu'ils soient guéris. Pourquoi pas? Non mais, il ne faut pas mépriser les prophéties, si quelque chose vient du Seigneur, amen. Et ça fait partie des choses que le Seigneur nous a demandé de prier pour les malades. Je vous rappelle que ici même, il y a quelque temps, nous avons prêché sur les domaines d'autorité que le Seigneur nous avait confiés. Ce n'était pas pour meubler les temps du dimanche matin. C'était pour nous encourager chacun à prendre ses autorités, à chasser les démons, à prier pour les malades. Et en se rappelant que cela fait partie du mandat qui nous a été donné en annonçant le message de l'Évangile, le Seigneur nous donne ces autorités-là. Et plusieurs ont rendu témoignage de l'avoir eux-mêmes expérimenté. Le but de l'enfant de Dieu, c'est de remplir sa place de témoin. Et dans cette place de témoin, il nous a donné de la puissance et de l'autorité spirituelle. La question maintenant de ce matin, c'est de dire, mais quelle est la place donc du surnaturel, quelle est la place de cette autorité spirituelle, quelle est la place du surnaturel de la guérison par rapport au message que nous représentons? Car je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous ne sommes pas des guérisseurs.
Amen.
Et Dieu ne nous a pas envoyés pour être des guérisseurs. Non. Il nous a envoyés pour être des témoins de quelque chose. Et donc la question, c'est de se dire, quelle est la place de la guérison dans ce cadre-là? Versets 5 à 11. Jésus leur donne ce conseil-là. Il leur dit, allez, et dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit avec vous. Oui. La première connexion, c'est une expression, que la paix soit avec vous, cela veut dire rentrer en communication, en dialogue. C'est comme si nous disions, ah bonjour. Bon, ça ne se limite pas à ça. Nous, en France, le rapport de communication, on se dit bonjour, on se serre la main et c'est tout. Ça se limite à 2 secondes. Dans les pays orientaux, ça se fait pas en 2 minutes. Et dans certains Africains, là, dans certains pays africains, ça dure 1 demi-heure, les salutations, et comment va la famille, comment vont les enfants, et ceci et cela. Et s'il n'y a pas ça, le rapport n'est pas fait. Vous ne pouvez pas discuter d'autre chose. Parce qu'il y a dans certaines cultures une nécessité d'établir la relation. Et s'il n'y a pas ça, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est ça exactement ce que Jésus est en train de dire. Quand vous allez dans un endroit, dites que la paix de Dieu soit... Et sous-entendu, établissez un rapport. Ne négligez pas le rapport. Et en ces cas-là, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est dit? Dites d'abord ça. Après, rentrez dans la maison. Et s'il y a vraiment un enfant de paix, alors restez là et guérissez les malades. Vous comprenez déjà l'ordre que le Seigneur a mandaté de ses enfants? La relation humaine, le contact, la connaissance de qui l'on est, parce qu'il le dit d'ailleurs après, mais par contre si on ne vous reçoit pas, mais pour quelle raison est-ce qu'on ne nous recevrait pas? Bah peut-être parce que l'on est, parce qui on est, parce que l'on représente. Alors secouez la poussière et éloignez-vous. Dites-leur, oui, le royaume des cieux s'est pourtant approché de vous. La bénédiction aurait pu être possible. Mais parce que vous ne nous recevez pas dans ce que nous sommes, dans notre identité, alors allons plus loin. L'exemple même de Jésus. Jésus ne courait pas après les malades. Mais partout, on voit les malades qui venaient à Jésus. Et il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Il n'excluait personne. Il ne refusait la prière à personne. Ça, c'est une évidence. Mais lui-même n'allait pas vers les malades. Il n'y a qu'une seule histoire, c'est le malade à la piscine de Bethesda. C'est le seul cas. Mais d'ailleurs, dans ce cas-là, où il y avait plein de malades, parce que c'était le lieu même où il n'y avait que des malades qui attendaient... Il est allé vers combien de personnes? Vers cette personne-là. Jésus n'allait pas vers les malades. Mais il laissait les malades venir à lui. Pourquoi? Est-ce qu'il était indifférent? Bien sûr que non. Alors, je voudrais juste revenir sur quelques versets. Matthieu 8, verset 35, 4, Marc 6, etc. Lorsqu'il nous est parlé du ministère de Jésus, il nous est dit que Jésus prêchait la parole et guérissait les malades. Vous le voyez toujours dans cet ordre-là. Jésus allait de lieu en lieu et il prêchait et il guérissait. Jamais il nous est dit l'ordre inverse. Jamais. Jamais. Il en est de même des disciples. Et même, il arrivait que Jésus demande à ceux qui étaient guéris, et surtout, tu le gardes pour toi, quoi. Tu dis rien. Pourquoi? Parce qu'il savait, et c'était arrivé, que lorsque la personne était guérie, il en dit à tout le monde et que les gens venaient vers Jésus, pourquoi? Uniquement pour être guéri. Et il le fera, il le reprochera, je crois que... Est-ce que je l'ai mis après ça? Tu es perdu parce que j'ai fait ça à chaud, il y a tellement de choses à dire que... Mais je crois que c'est en Jean chapitre 6 que Jésus va même reprocher à la foule qui le suivait, vous me suivez parce que je vous ai donné uniquement à manger. Et il y avait un grand danger. Et il y a même des fois où Jésus se tenait à l'écart de la ville, justement parce que les gens ne cherchaient à ne voir Jésus que pour la guérison. Non pas que Jésus n'est pas pour la guérison, il est même mort pour ça. Et Jésus a marqué son ministère de la guérison comme étant la confirmation du message, mais pas l'inverse. Lorsque l'on observe Jésus, un, il laissait les malades venir à lui. Lorsque le malade était encore là, devant lui, observez qu'il ne rarement. Là aussi, il y a peut-être deux passages, je crois. Mais il n'y a que ces deux seuls passages où Jésus ne va pas dire à la personne « Tes péchés sont pardonnés. » Mais au contraire, il disait, un, le malade venait, deux, Jésus soit prenait le temps, soit disait à la personne « Tes péchés sont pardonnés. » Et trois, il guérissait. Nous voyons bien que la place de la guérison a un second plan. Je ne vais pas dire que c'est secondaire. C'est-à-dire qu'entre le message et la guérison, ce qui est important à mettre en évidence, c'est le message. Et la guérison confirme le message. Pourquoi est-ce que c'est si important de garder ce principe? Et ce qu'on est en train de dire, je l'explique parce que je veux que ce soit clair, mais j'ai même envie de vous dire que c'est peut-être le moindre du danger de cette nouvelle théologie. C'est le moindre danger. C'est presque insignifiant par rapport à ce que l'on va voir. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de garder ce principe-là, que les gens doivent venir à Jésus, que les malades doivent venir à Jésus, que les malades doivent venir à la compréhension du message que l'on a, que l'on apporte avant de prier pour elles. Parce que ça crée les dangers de placer la guérison en avant. C'est que cela crée de la confusion. D'ailleurs, vous n'êtes pas 50 ans à m'en avoir parlé, peut-être une ou deux personnes. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, assis dans la parole de Dieu, ça crée de la confusion. On se dit, mais comment ça se fait? Il guérit, et nous, il y a moins, qu'est-ce que c'est? Comment ça se fait? Et ça crée de la confusion. On sait que Dieu est un Dieu d'ordre. On sait que quand Dieu intervient dans notre cœur, il n'y a pas de confusion. La Bible nous dit même que tout ce qui n'est pas le principe de la conviction est péché. Et le diable est très fin, très subtil. Avant de commencer la destruction totale, il commence à semer le doute, la confusion. C'est pas clair. Le cœur n'est pas complètement libéré. Il y a comme un petit truc qui fait que... La confusion, premièrement, sur la source. Et sur les priorités. Comme à Lourdes. Les gens vont à Lourdes et chacun y trouve son business. Chacun s'attend à ce qu'il y ait la guérison, le miraculeux, qu'il y ait quelque chose, mais chacun en tire son parti. Le vendeur de statuettes, il va dire, plus il y aura de guérison, mieux je me porterai. Les catholiques qui tiennent le système, ils disent, plus il y a de monde qui viendra, enfin plus il y aura de guérison, plus ça fera de la pub pour nous. Tous ceux, les conducteurs de bus, sont très contents parce que plus il y aura de gens qui voudront aller, plus je me ferai mon business. Et plus les malades qui sont guéris disent « Ah ben c'est super parce que plus on y va, parce que si vraiment on est guéri, on va y aller. » Mais la réalité, c'est que tout ça, ça crée de la confusion. Parce que le seul intérêt, c'est la guérison uniquement. Et ça entraîne les gens et ça maintient les gens uniquement dans une vision de la guérison du corps, c'est tout. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on place la guérison comme la première chose à obtenir, on va créer dans l'esprit des gens cette confusion-là. Comme les guérisseurs, c'est pareil. Permettez-moi de vous dire qu'il y a une multitude de gens qui vont voir les magnétiseurs, les guérisseurs en tout genre. Et ça leur importe très peu de savoir quelle est la force de ces magnétiseurs. Ce qui leur importe, et c'est tout à fait légitime, c'est d'être guéri. C'est tout ce qu'ils cherchent. Alors que ce soit Krishna, que ce soit les pierres vivantes, que ce soit les pierres enterrées, que ce soit au nom de Jésus, que ce soit au nom d'Allah, que ce soit... Ils s'en fichent. Celui qui est malade, à qui on dit « Hey, tu vas être guéri ?»« Ben oui, je vais être guéri. » Il ne se soucie pas de savoir quelle est l'origine. Alors il sera guéri ou il ne sera pas guéri, qu'importe. Mais dans son esprit, il ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et ça crée la confusion dans l'esprit des gens. Ça crée la confusion dans l'esprit des gens. L'essentiel, c'est qu'il y ait guérison. Qu'importe l'état de l'âme, qu'importe la vérité. On verra ça après. Et c'est vrai. Là, je veux dire, et je dis bien que c'est le plus petit danger de notre histoire. Et merci Seigneur, s'il y a des gens qui, si par cette méthode-là, sont guéris, alléluia, on espère. Merci Seigneur, si après certains se posent des questions et disent « Waouh, mais il est trop fort, c'est au nom de Jésus, c'est super, je vais me tourner vers lui, alléluia !» Mais à côté de tous ceux qui ne feront pas cette démarche sincère, ça crée dans leur cœur de la confusion, ça crée au milieu du peuple de Dieu de la confusion, ça crée dans la société de la confusion. Parce que lorsque Jésus allait de lieu en lieu, et que les gens venaient vers Jésus, ils savaient vers qui ils allaient. Les gens n'allaient pas dans une sorte de confusion, en disant « Tiens, on va chez un guérisseur », ils savaient qu'ils allaient vers Jésus. Le fait d'annoncer le message, il n'est pas question... Mais là aussi, c'est là où il faut savoir user de bon sens. Prions pour les malades. Amen. Et il n'est pas question avant de leur faire toute la théologie de l'Ancien, du Nouveau Testament, l'imposition des mains à droite, à gauche. On ne leur demande pas de savoir réciter les évangiles. Non. Mais on leur annonce, voilà, je suis chrétien. J'ai eu la chance de rencontrer Jésus, il a changé mon cœur, il a changé ma vie, il m'a délivré de mes péchés, et en plus, tu sais, j'ai entendu dire que le Seigneur pouvait te guérir, est-ce que tu perds ? Voilà, c'est qu'avant, il faut que les gens reçoivent la compréhension que si on prie pour eux, c'est pas parce qu'on cherche la guérison, c'est parce qu'on a connu quelqu'un qui a tout accompli à la croix, qui est mort pour eux. Et en plus, le Seigneur peut te toucher. Est-ce que tu acceptes ça ? Et c'est une autre mentalité. Parce que si vous allez, je dis, ah, vous voulez être guéri, bah oui, je veux bien guérir. Tu permets que je prie, bah oui, vas-y. Il y a là, dans la confusion, les gens les chassent. Je ne sais pas si vous êtes un guérisseur, si vous êtes un marabout, si vous êtes un. Si le don vient de vous, de Dieu, enfin. Et faisons attention. Parce que si on va plus loin dans l'esprit de la personne qui accepte qu'on prie pour lui, à ce moment-là, il met sa confiance en quoi ? Et bien là, c'est une grande zone que personne ne contrôle. Parce que si vous allez, au nom de rien du tout, prier pour que les gens soient guéris, ils vont vous dire oui, comme ils iront pour le guérisseur, mais en plus c'est gratuit, c'est super. Comme ils iront au salon de la santé, où là on va leur vendre des pierres et tout, ils vont mettre leur confiance dans ces choses-là. Ces trucs-là, pour eux, ils ne savent pas, c'est le grand univers, c'est le grand marasme cosmologique qui a sûrement des bonnes choses, des bonnes irradiations à me communiquer. Donc lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, on prie avec la conviction que c'est par le Saint-Esprit, il n'en est pas certain que dans la personne, dans l'esprit de la personne, ce soit aussi clair. Et là on ne maîtrise pas, parce qu'avant on ne lui a pas dit les conditions pour lesquelles et dans lesquelles on allait prier. Et la foi de la personne ne repose pas sur le message de l'évangile. Elle va reposer sur sa croyance et son espérance que par votre prière, que je ne sais pas d'où ça va venir, ça va m'apporter la guérison. Vous comprenez ?
Oui.
Et c'est pour ça qu'il faut être toujours, premièrement, annoncer la couleur. Nous, c'est au nom de Jésus, mort à la croix pour tes péchés. Et qui, en plus, dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Est-ce que tu veux que je prie au nom de ce Jésus-là ? Et là, il y a une disposition, il y a un engagement, il y a une prise de position qui n'est pas d'ordre seulement moral, mais là, elle devient spirituelle. Alors que si on laisse les gens spirituellement dans un vide intersidéral, leur demandant la guérison, alors vous ne maîtrisez plus la foi que les gens vont placer. La deuxième confusion qui peut s'opérer, c'est la confusion du guérisseur. Je mets guérisseur entre guillemets. Pourquoi ? Parce que là, je mets par rapport à la vision de ceux qui m'ont accepté la prière. Ah bah oui, je veux bien que vous priez pour moi. Parce que la personne ne vous connaît pas en tant que disciple de Jésus-Christ, né de nouveau, connaissant la parole de Dieu. Il vous connaît seulement comme quelqu'un qui est capable de prier pour vos maladies. Donc la personne n'a une foi en un guérisseur. Pourquoi est-ce que je mets la motivation du guérisseur ? Là aussi, ça ne relève pas, c'est pas un problème de personne. Et le problème n'est même pas par rapport à la personne avec qui on prie. Mais là, c'est un problème vis-à-vis de Dieu lui-même. Matthieu chapitre 7, Nombre 22, Ésaïe 14, c'est quoi ces exemples-là ? Matthieu 7, vous verrez que c'est ce passage où les gens vont dire à Jésus, mais on a fait des grands prodiges, on a prophétisé par ton nom, on a fait ceci, et Jésus va leur dire, là, c'est vrai, mais je ne vous connais absolument pas. Ils ont bien fait les choses avec une certaine motivation, mais Jésus est en train de leur dire, mais votre motivation là, je ne suis pas avec. Faisons attention. Dieu a bien plus un regard sur les motivations de nos actions que sur nos actions en tant que telles. On peut tout faire, mais ce que Dieu va considérer, c'est la motivation avec laquelle nous les faisons. Et dans le sens inverse, si nous ne le faisons pas, Dieu va aussi juger la non-motivation qu'il y a dans notre cœur. Ce que Dieu considère avant les actes, c'est la motivation. Balaam, nombre 22, un homme vraiment surprenant, un homme qui crée la confusion. C'est le prophète de l'Éternel. Et pourtant, c'est comme un mercenaire. On va l'embaucher pour prophétiser des choses contre les gens. On se dit, mais il est vraiment confus cet homme-là. Il est vraiment inspiré de Dieu. Parce que d'ailleurs, dans cette histoire de 22, il va dire, mais moi je peux dire que ce que me dit l'Éternel. Mais il accepte des compromis malsains. En l'occurrence, lui, ce qui l'intéresse un peu, c'est le porte-monnaie pour lui. Et là, on voit que la motivation est malsaine. Pourtant, c'est bien un prophète. Il est bien inspiré de Dieu. Comme quoi on peut recevoir véritablement des choses de Dieu. Mais la motivation est mauvaise. Mais qu'est-ce que va juger Dieu? L'acte ou la motivation? D'autant que si véritablement il y a guérison et miracle, ils viennent de qui? De Dieu lui-même. Je vous rappelle juste Ésaïe 14, verset 13. Vous savez de qui on parle dans Ésaïe 14? De Lucifer, qui deviendra Satan. Et il nous est dit dans Ésaïe 14 que l'origine de Satan, c'est qu'il était un ange avec une place extraordinaire. Et il nous est dit au verset 13 que à cause de son orgueil, il a voulu se mettre au-dessus de Dieu. Et que par cette motivation, cet ange est devenu l'adversaire de l'œuvre de Dieu. Incroyable! Incroyable! Faisons attention. Le danger de placer la guérison et le surnaturel avant le message de l'évangile, avant la vérité, c'est que cela peut créer de la confusion de ceux pour qui on prie. Et ça peut créer, et ça crée de la confusion sur les motivations des personnes qui agissent ainsi. Et là, on ne parle que du plus petit danger de cette situation. Mais il faut quand même le comprendre, il faut quand même le réaliser. J'entendais récemment un journaliste qui disait que, qui faisait remarquer et qui posait à celui qui l'interviewait, il dit, mais vous savez où est-ce que Daesh s'installe? Vous avez Daesh, c'est bon, pas besoin de faire une présentation. Est-ce que vous savez où est-ce que Daesh s'installe partout dans le monde? Non, pas vraiment. Dit Daesh s'installe, premièrement, dans tous les pays qui sont politiquement et économiquement instables. Là où il y a du trouble, il y a eu de la confusion, c'est là qu'ils s'installent. Parce qu'ils savent que là où ils s'installent, il n'y a rien d'organisé et ils vont exploiter la confusion pour former leurs armées et envoyer leur milice. Le diable travaille toujours dans les zones d'ombre. Là où il y a du trouble, là où il y a de la confusion, là où il n'y a pas des convictions, là où on est là, on dit c'est bien, c'est pas bien, on sait pas. C'est là que le diable travaille. Il est comme un loup, il se blottit là, dans les zones d'ombre, et il se dévoile toujours après. C'est pour ça que dans toutes les fausses doctrines, il y a toujours un aspect intéressant. Il y a toujours quelque chose qui dit, mais ouais, c'est... Et si ça venait du Seigneur? Et c'est vrai. Et il y a certainement d'ailleurs une partie qui vient du Seigneur. Mais dès que l'on sent qu'il y a un peu d'ivraie, vous savez, l'ivraie, ça ressemble au blé, en fait. C'est proche. Et même, ça a la vocation d'étourdir un petit peu ceux qui en prennent. Un petit truc en plus. Si nous revenons à notre texte, en Luc, chapitre 10, verset 20, les disciples sont super contents. Ils reviennent, on a chassé les démons, on a guéri. Oh, t'aurais vu ça, Jésus! Mais t'aurais été là! Oh, tu nous aurais donné la palme! J'ai dit, mais je sais! Je le sais! Et c'est super! Et d'ailleurs, je vous encourage, et je l'ai dit plus d'une fois, que plusieurs au milieu de nous ont perdu le feu de l'évangile parce qu'ils ne servent plus le Seigneur. Il n'y a rien de plus motivant en tant que chrétien que d'annoncer le message de l'évangile. Il n'y a rien de plus stimulant que d'être dans l'action de l'évangélisation, d'annoncer le message de l'évangile, de prier pour les gens et de voir l'œuvre de Dieu accompagner vos paroles et vos cœurs. Un chrétien qui ne témoigne pas, un chrétien qui ne remplit pas sa vocation, il s'amoindrit. Il perd de son feu, il perd de sa vigueur, il perd de sa motivation. Et c'est clair que c'est extraordinaire, et je sais que tous ceux qui l'ont expérimenté, et vous l'avez tous expérimenté, que quand on partage le message de l'évangile aux gens, quand on prie pour les gens, il y a un feu au-dedans de nous-mêmes, n'est-ce pas? Même lorsque nous étions complètement à plat, que même avec le Seigneur ça marchait pas trop, qu'on se demandait qu'est-ce qu'il y a, le Seigneur nous a permis de parler à quelqu'un, et on est ressorti de là encore plus boosté que la personne avec qui on avait parlé, n'est-ce pas? Parce que c'est notre place en tant que chrétien. Si on ne prend pas notre place, on peut pas s'épanouir. Il faut prendre notre place. Mais Jésus dira, c'est superbe. C'est superbe, mais oui. Mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tu es content de voir des guérisons, alléluia. Tu es content parce que par toi, tu as pu amener des âmes à l'église, mais c'est génial. Tu as trouvé une opportunité pour témoigner à tes collègues. T'es content, n'est-ce pas? Mais c'est génial. C'est génial, mon enfant, mais réjouis-toi surtout de ce que tu es sauvé. De ce que tu as l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Réjouis-toi surtout de ce que quand tu te mets à genoux, tu sens la présence du Seigneur. C'est ça! Mais ça, j'ai mis en dessous que c'est une glissière de sécurité par rapport à notre propre cœur. Parce que, et malheureusement j'en ai connu des amis comme ça, qui avaient vraiment reçu du Seigneur. Ils m'ont même étonné, surpris. Je dis, waouh, mais c'est trop fort ce que tu vis là avec le Seigneur. Des gens qui étaient engagés, et ils étaient tellement à fond dans les bénédictions qu'ils recevaient du Seigneur, que malheureusement ces mêmes bien-aimés que j'ai pu connaître aujourd'hui ne sont plus. Ils ne sont plus dans le Seigneur. Parce que quand notre cœur s'attache plus au miraculeux qu'à la personne de Jésus, à un moment c'est le cœur qui dérape. C'est le cœur qui dérape. Le Seigneur nous invite à garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que quand notre cœur ne s'attache plus à Dieu lui-même, mais à ses bénédictions, ou à des résultats, ou à des fruits, alors permettez-moi de vous prévenir que le diable va en profiter. Rappelez-vous le dialogue qu'il y a eu entre Jésus, le Fils de Dieu, il a eu du culot quand même, et Satan lui-même. Et si vous relisez le processus que Satan fait, il ne lui fait que suggérer des choses qui sont tout à fait légitimes. Disent, mais t'as faim, hein, t'as faim, ton cœur il a faim. Bah t'as qu'à changer ses pierres en pain. Vas-y, fais-le. Permettez-moi de vous dire, de nous prévenir, que si notre cœur s'affectionne à quelque chose, le diable est capable de nous le donner. Si tu te prosternes devant moi, Jésus, tu vois toutes ces richesses, cette gloire, cette puissance, moi je te la donne. Oh. Mais qui n'a pas été tenté? Des serviteurs de Dieu m'ont plusieurs fois raconté que c'était dans les moments comme ça où ils s'attendaient vraiment à la puissance, à l'action de Dieu dans leurs églises, qu'il s'est insinué ce genre de propos qui venait d'outre-tombe. Oui. Tu veux ça? Tu voudrais que ton église grandisse? Prosterne-toi et tu verras, je remplirai ta salle. Oui. Vous connaissez Hitler? Connaissez. Il y a eu encore un reportage il y a quelques mois qui est passé sur lui. Hitler, lui, il consultait tous les voyants, les médiums, les trucs comme ça. Pourquoi? Parce que dans le reportage, il le disait que il était en contact avec. Alors, c'est très nébuleux avec lui. Hein, on va résumer, nous qui connaissons la parole de Dieu et les aspects surnaturels. Parce qu'il côtoyait de ces soi-disant puissances qui étaient capables de manipuler les foules. Et donc il fricotait avec le monde occulte, parce que son désir à lui, c'était de pouvoir manipuler les foules, avoir du monde, du people, et pouvoir les gouverner. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, mais comment ça se fait que soudainement, toute cette multitude de gens se sont engagés dans des trucs qui nous paraissent aujourd'hui complètement folles ? Soyons conscients que si notre cœur n'est pas attaché au Seigneur lui-même, mais qu'il s'attache à d'autres choses, alors ça peut même être un danger par lequel le diable peut exploiter. Il nous est parlé que le diable lui-même est capable de faire des signes et des prodiges mensongers, pouvant même séduire les élus. Il est parlé de cette séduction des élus. Faisons attention. Gardez-vous cependant, réjouissez-vous, non pas de ce que vous avez une autorité, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom s'est inscrit dans les vies, de ce que vous, dans les cieux, de ce que vous êtes sauvés, de votre relation au Seigneur Jésus. Ça doit être la priorité dans nos cœurs. La priorité comme une glissière de sécurité pour que nous ne laissions pas une opportunité. L'autre point que nous voyons dans Luc, au verset 1er, nous voyons que Jésus les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller.
Oui.
Et là, je voudrais aborder avec vous deux indicateurs qui sont des révélateurs. Je veux revenir sur ce principe-là. Quand vous voyez acte 8, acte 2, et puis d'autres, hein, je n'ai pas fouillé toute la Bible. Ce principe-là se retrouve dans la première église. On peut les lire d'ailleurs. Enfin, je vais vous les lire. Actes chapitre 2, pour nous replacer. Il nous est dit que des premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient, ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun, au point ils vendaient toutes leurs propriétés. Et ouais, mais on va aller jusqu'au bout. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc on voit le principe. Chaque jour, les chrétiens se rassemblaient. Ils se laissaient enseigner. Et puis, ils continuaient dans leur maison à développer la communion fraternelle. Et le Seigneur ajoutait tout ça à l'église, tous ceux qui étaient sauvés. En Actes chapitre 8, là, j'aurais dû commencer par Actes chapitre 8, une parfaite illustration de ce qui se passait là. Là, c'est notre ami Philippe. Il quitte Jérusalem parce que la persécution, il se retrouve en Samarie. Il annonce le message de l'évangile, accompagné de signes et de prodiges. Il y a un vrai réveil, alléluia! Ça y est, Philippe se dit, je vais être le pasteur de Samarie! Pas du tout. Les autres frères de Jérusalem apprennent la chose et ils montent. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est génial! Mais oui! Priez pour eux d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ces bien-aimés là. Mmh. C'est quand même étonnant. Philippe, il fait des miracles, des prodiges, mais il...
Oui.
Bon, c'est tout. Et après, Philippe quitte et les gens continuent. Et le passage nous montre bien qu'il y a une... Il n'y a pas d'individualisme. Il n'y a pas d'esprit de division. On voit au contraire dans ces passages acte 8, acte 2, qu'il y a... Alors j'ai peut-être fait un peu... Une unité fédératrice. Les chrétiens qui annonçaient le message de l'évangile ne cherchaient pas... Et là, c'est là que je vous disais que c'est un indicateur qui est révélateur. C'est que Philippe, comme les autres, qui étaient des instruments de bénédiction, ne considéraient pas leur service comme étant une occasion de se séparer de l'Église, de diviser l'Église, d'être des indépendantistes de l'Église. Mais au contraire, ils acceptaient de se rassembler, de se réunir. En Éphésiens chapitre 4, versets 10 à 15, on peut lire ça d'ailleurs. Éphésiens 4, 10 à 15... Alors, on ne va pas dire 10-15, je vais dire 10-12 et 14-15. Or, que signifie ? Il est monté, sinon celui... Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu Il est parlé de qui? Celui qui est descendu?
De Jésus.
De Jésus, ok. C'est le même qui est monté dans les cieux. On parle de qui?
Jésus.
Afin de remplir toutes choses. Et il a donné. C'est qui il?
Jésus.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et on continue au verset 14. Je ne le trouve pas. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans Éphésiens chapitre 4? C'est que Dieu qui a et qui fonde l'Église, on est d'accord? Je bâtirai mon Église. C'est lui qui l'a bâti. C'est pour ça que c'est lui qui ajoute à l'Église, chaque jour. Il est aussi celui qui a décidé de l'organisation de l'Église. Et il nous est dit qu'il a d'abord donné des ministères. Quel est le but de ces ministères? Des apôtres, des évangélistes, des prophètes, des pasteurs, des enseignants. C'est d'enseigner le peuple afin que chacun puisse développer le don qu'il a reçu. C'est ça, quand il est parlé de ministère, de service, en fait, c'est le même mot. Nous, on utilise souvent le mot ministère par rapport à celui qui a une charge de responsabilité dans l'Église et qui a un de ses cinq ministères. Mais chacun d'entre nous, nous avons notre ministère. Chacun d'entre nous, nous avons notre service. Chacun d'entre nous, nous avons reçu un don que nous devons développer, exploiter. Et le but des ministères en place, des responsables, c'est de stimuler chacun dans le don qu'il a reçu afin de le valoriser, de le développer, de l'épanouir et peut-être même pour certains de le découvrir. C'est ça le but des ministères, que chacun puisse bien remplir son service, que chacun puisse prendre sa responsabilité. Et les ministères, dans les différents aspects, certains seront plus évangélistes, d'autres plus pasteurs, d'autres plus enseignants, etc., vont encourager, stimuler, développer, révéler les dons. Mais le but, on l'a vu, c'est que tout le corps bien coordonné tire son accroissement. Permettez-moi de vous dire que l'Église ne peut pas se permettre le luxe de la division. L'Église ne peut pas se permettre le luxe de l'indépendantisme. Par contre, il y a des exemples. Et là, tu peux mettre la page d'après. Les symptômes révélateurs sont, et pour le tout premier justement, cette notion d'indépendance et de rejet de l'autorité. Ça commence en Genèse chapitre 3, verset 5. Rappelez-vous la séduction du malin à l'égard de Adam et Ève. Ils sont dans le jardin, ils ont tout. Ils ont la relation au Seigneur, ils n'ont pas de maladie, ils sont tranquilles, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils se multiplient. Total. Et il y en a un qui arrive. Et écoutez ce qu'il leur dit. Tu sais, si tu manges ça là, bah tu sauras les choses comme Dieu. Toi tu vas savoir. Et tu seras comme Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ce genre de message? Toi tu vas connaître. Toi tu seras libre. Tu n'auras plus besoin que Dieu te surveille. Tu n'auras plus besoin que Dieu soit sur toi. Si tu es comme Dieu, tu n'as plus besoin de lui. Et voilà à quoi il succombe. Cet esprit d'indépendance, ce rejet de l'autorité. Soyons les yeux ouverts, je vous en supplie. Quiconque est animé de cet esprit d'indépendance, quiconque est animé de ce rejet de l'autorité, je fais ce que je veux, n'est pas dans la logique de ce que nous avons vu avant. L'Église n'est pas une chasse gardée des ministères, évidemment que non, mais Dieu a établi des responsabilités aux uns et aux autres. Et Dieu veut que l'Église soit forte et unie. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Être unis, complémentaires, ça. Mais pas des indépendantistes qui rejettent toute autorité. Au contraire, c'est une sécurité. En Jean chapitre 3, verset 1 à 9, oh, l'apôtre de l'amour, il est tellement gentil que lui aussi se faisait piétiner les pieds, on dirait. Il nous est parlé d'un certain Diotrèphe. Il aime à être le premier parmi eux et il ne nous reçoit pas. C'est pourquoi je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Et non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, et il les en empêche et les chasse de l'église. Et il y a là une racine d'indépendance. Le cas de Diotrèphe, c'est qu'apparemment il était responsable d'une assemblée, et puis il commençait à vouloir refuser effectivement ce travail de complémentarité d'équipe. Il refusait que les autres pasteurs disaient hey, oh, on peut, et si on allait devoir, non, venez pas chez moi. Et il commençait à mal parler de l'église, à mal parler des frères, à dire non, c'est pas ça, il faut se séparer. Mais ce n'est pas la mentalité de l'évangile. On a commencé tout à l'heure avec des zones de risque, de trouble, de confusion. Et je vous disais que c'était le plus faible des dangers. Mais là, il y a des aspects qui sont révélatrices, il y a des aspects qui sont révélateurs, mille excuses. Et nous devons prendre garde, mes bien-aimés. Parce que celui qui sème la division dans l'Église, ce n'est pas l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui encourage la division du corps de Christ. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui refuse de reconnaître le rôle des ministères dans l'Église. Ce n'est pas l'Esprit de Jésus qui appelle à de l'indépendantisme et de l'individualisme. Ces deux notions-là sont complètement étrangères à la logique de Dieu. Et vous le voyez dans tous ces courants, parce que c'est pas une nouvelle doctrine en fait, hein, mille excuses, hein, mais depuis la nuit des temps, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Et elles sont toujours vérolées de quelques fausses doctrines. Alors j'ai pas eu le temps de tout étudier du système. Je vais même vous dire que ce que je vous dis là, je ne sais que 3-4 trucs. Mais ce que j'ai entendu, mon épouse était là aussi, c'est que parmi les fausses doctrines qui sont véhiculées, parmi une, et il y en a sûrement d'autres, mais le but c'est pas de mener des combats. Parce que vous savez, si on devait discuter de toutes les fausses doctrines, on passerait toute notre année à parler de toute autre chose que de l'évangile. Il y a une vérité et il y a une multitude de confusions et de fausses doctrines. Donc le but c'est pas chaque fois de stigmatiser, mais là on parle du sujet, on va aller jusqu'au bout, enfin en tout cas une partie. Je ne fais que lever un petit coin de l'histoire. Mais parmi une des fausses doctrines qui est véhiculée par ce courant, c'est de dire que c'est le baptême qui délivre. Le baptême d'eau qui sauve. C'est le baptême d'eau qui délivre des péchés. Voilà. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, alors vous êtes encore dans vos péchés. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas le baptême d'eau qui sauve du péché. C'est la foi en Jésus-Christ. Christ est mort à cause de nos péchés. Il est mort. Il n'y a pas d'engagement dans le baptême. Enfin, selon lui, ce n'est pas un engagement. Ce n'est pas un symbole. C'est une puissance qui libère. Waouh! Ben, les catholiques doivent être super contents. Hein, oui. Parce que c'est exactement ce qu'ils enseignent. Alors qui a raison? Ce n'est qu'une fausse doctrine. Et il y en a sûrement d'autres qui se glissent. Alors soyons mesurés, lucides. Gardons à l'esprit les principes de 1 Thessaloniciens. Ne méprisons pas les prophéties. Et moi, je peux même vous dire que quand j'ai eu cet avertissement des instances, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à avoir peur des choses, à tout de suite stigmatiser noir ou blanc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder sur Internet. Et j'ai commencé à regarder. Et j'ai même dit à mon épouse, mais c'est chouette, c'est bien. Franchement, ce qu'il dit, moi, je suis mille fois d'accord avec lui, c'est super. Ouais, mais c'est après qu'on découvre les choses. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas mépriser les prophéties. Peut-être qu'il y a effectivement, par ce moyen-là, un appel de Dieu à ce que chacun prenne sa place de témoin.
Amen.
Parce que quand même, ça montre quand même qu'il y a des hommes et des femmes qui, quand ils sont encouragés et découvrent qu'ils peuvent être un sujet de bénédiction, ça répond à quelque chose dans leur cœur. Et vraiment, je voudrais voir là un clin d'œil, une main tendue du Seigneur pour que chacun d'entre nous, on puisse se dire « Mais oui, tu m'appelles à être un témoin. Tu m'appelles à être dans ce monde un instrument de bénédiction. » Oui, et que nous ne méprisions pas le bon côté de toutes ces interpellations. Parce que dans toutes les fausses doctrines, il y a toujours quelque chose qui nous interpelle et qui nous emmène à s'examiner soi-même, à se réévaluer, à se repositionner. Mais il faut examiner toute chose et ne pas, j'ai repris l'expression d'Éphésiens chapitre 4, ne pas nous laisser emporter. Il faut prendre le temps d'examiner les choses. C'est pas parce que la chose semble super, c'est pas parce que la chose semble donner du fruit qu'il faut foncer et puis le nez dedans. Sinon, ouvrez un magasin de magnétiseurs et vous allez avoir beaucoup plus de monde, vous savez. Il y a une multitude de moyens pour gagner des gens. Mais la parole de Dieu nous demande d'examiner les choses pour les évaluer sur les repères de la parole de Dieu. Retenons ce qui est bon. Et pour ma part, ce que je peux retenir de bien de ce mouvement, c'est qu'il nous encourage à cette audace de la foi, à ce courage de la foi, à sortir de notre petit train-train, de enfin considérer la misère qu'il y a autour de nous et d'y aller, d'avoir le courage d'annoncer le message de l'Évangile. Et c'est quand même étonnant. C'est là que je me dis, il y a vraiment un esprit étonnant. Parce que lorsqu'on invite les gens à faire de l'évaluation, à se lever, à se motiver, alors là, il n'y a pas grand monde qui se lève. Et il suffit que ça passe par Internet pour que soudainement, il y a plein de volontaires. Non mais c'est quand même... Ça nous pose... Ça interroge quand même. Comment ça se fait qu'en prêchant l'Évangile, en stimulant, en encourageant, personne ne bouge? Mais si ça passe par Internet, alors là, ça bouge. Moi, ce que je vous propose, c'est que je prêche sur Internet. On mettra un écran là. Ok? Et puis vous appuyez sur le bouton. Je prends le même message, annoncez l'Évangile, guérissez les malades, et ça va vous stimuler. Amen. Non, vous avez bien fait de ne pas dire amen, ça c'est bien. Retenez ce qui est bon. Et il y a dans tous ces mouvements, alors il y a eu plein de mouvements hein, comme ça, qui ont même emporté des pasteurs. Hein. Enfin, il y en a une multitude hein, de. Les anciens connaissent, ils pourraient mettre des noms sur tous les mouvements de déviance qu'il y a eu. Et il y en aura, malheureusement. Il y en aura. Mais à chaque fois, il y a quand même des aspects qui sont bons à retenir. Et souvent, c'est un rappel à la foi, à cet engagement au service. Mais abstenons-nous de toute espèce de mal. Parce qu'en regardant de plus proche, en examinant les choses, alors on va s'apercevoir qu'il y a des symptômes qui sont malsains. Et c'est souvent les mêmes choses. Vous vous rappelez quand on avait prêché il y a quelque temps sur la notion de la révélation? C'était les mêmes thématiques. L'orgueil, la gloire, le succès, le m'as-tu vu, l'argent. Et on retrouve toujours les mêmes symptômes. Pas besoin des autres. Libre, libre, libre. Hein, mais libre. Mais la Bible, lorsqu'elle nous parle de liberté, c'est à l'égard du péché. Ça n'a rien à voir avec le fait que je fais ce que je veux quand je veux. On doit être libre à l'égard du péché. Amen. La vérité vous rendra libre à l'égard du péché. Mais au contraire, Paul disait qu'il était esclave de Christ. Paul disait qu'il préférait bien, lui, partir au ciel. Mais par rapport à la charge qu'il avait, il préférait encore rester avec les soucis de l'Église. S'il y en avait un qui pouvait être indépendantiste, c'était bien lui, non? S'il y en avait un qui aurait pu faire son mouvement, s'il y en avait un qui pouvait dire « Oh, moi je m'installe là !» Mais ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est d'être au service des âmes qui sont dehors, au service de l'Église, et d'être attaché à la parole de Dieu. Je voudrais juste terminer par ce verset-là. Il y aurait une multitude d'autres. Mais la plupart d'entre eux, de ceux qui se pourraient être un peu troublés dans leur cœur, l'est par rapport aux signes extérieurs de succès. Je parle bien de signes extérieurs, apparents de succès. C'est le nombre de miracles qui se passent. En Apocalypse chapitre 3, Dieu va dire à une église, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole.
Oui, oui, oui.
Et à plein d'autres passages, Jésus va condamner ceux qui sont capables de faire des miracles et des prodiges par le nom. On reviendra à ça tout à l'heure. Mais où Jésus va leur dire, je ne vous connaissais pas. La motivation par laquelle les choses se sont faites, moi j'étais pas dedans. Alors, encourageons-nous, amen, à annoncer l'évangile. Ah, encourageons-nous à prendre confiance dans l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Amen. Ça vous stimulera, ça nous stimulera. L'Église lui grandira. Cela n'empêchera pas les problèmes ni ce genre de choses. Mais que nous soyons dans la crainte du Seigneur. Veillons sur notre cœur avec crainte. La première chose que nous devons rechercher, c'est la faveur du Seigneur, son approbation, et à ne pas nous laisser emporter juste par des signes extérieurs. Amen. Désolé d'avoir dû parler et recadrer les choses, mais il est indispensable dans ces temps. La Bible nous le rappelle qu'à la fin des temps, il y aura une profusion de faux docteurs, alors que nous soyons nous toujours vigilants et conscients. Amen.
Amen.